village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
9 décembre 1905, 9 décembre 2024. C'est aujourd'hui le 119e anniversaire de la loi de 1905, de la loi de séparation des Églises et de l'État. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. En ce 119e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État, qui a consacré la liberté de conscience et la laïcité institutionnelle, la Fédération nationale de la libre pensée déclare œuvrer sans relâche à l'unité des laïcs autour d'un certain nombre de principes fondateurs de la séparation des Églises et de l'État. Le principe de séparation entre la sphère publique et la sphère privée. Par sphère publique est composé du domaine des institutions, de l'administration, des pouvoirs publics, des services publics. La sphère privée est donc composée de tout le reste. Ce qui est d'ordre collectif n'est nullement obligatoirement dépendant de la sphère publique. Ce principe garantit la nette distinction entre ce qui relève de la chose publique, qui représente l'intérêt général dans laquelle la neutralité métaphysique et politique est la règle absolue, et le domaine privé où peuvent s'exprimer totalement et librement les opinions, même religieuses. C'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Il ne faut pas confondre laïcisation et sécularisation. La laïcisation est celle des institutions dans la sphère publique. Elle peut ou pas entraîner une sécularisation de la société, c'est-à-dire un détachement du religieux dans la sphère privée. Ces deux éléments agissent dans des champs différents. La laïcisation dans la chose publique, la sécularisation chez les citoyens. Prenons trois exemples pour nous faire comprendre. La France est un pays dont les institutions sont laïques et la société est profondément sécularisée. Les USA connaissent des institutions laïques, mais la sécularisation avance lentement et la religiosité de la société est encore importante. Les Pays-Bas ont des institutions cléricalo-monarchistes. Mais la société est profondément sécularisée. La laïcisation est œuvre de gouvernement, la sécularisation est œuvre des citoyens. Les religions, comme l'athéisme, sont des philosophies et ne sauraient être un principe institutionnel de gouvernement. Tout État qui dit « croit ou ne croit pas » et qui veut imposer sa conception métaphysique à tous ses concitoyens est un État totalitaire. La libre pensée exige le respect de la liberté de conscience de chacun et de tous. L'égalité des citoyens ne peut se faire que par un traitement égal entre toutes les conceptions métaphysiques par leur non-reconnaissance officielle. Nous rappelons que « reconnaissance » est un terme juridique qui ouvre des droits. Par exemple, quand des parents reconnaissent un enfant, ils lui assurent des droits et ils ont des devoirs envers lui. Toute reconnaissance d'une conception métaphysique est un traitement de faveur fait obligatoirement au détriment d'autres conceptions. Quand le gouvernement Jospin, en 2001, a mis en place la réunion annuelle de l'instance de dialogue entre l'Église catholique et l'État, il ouvrait des droits exorbitants à cette religion en lui conférant une reconnaissance dérogatoire au droit commun. La libre pensée exige sa suppression. Cette non-reconnaissance implique un non-financement public des cultes, directement ou indirectement pour leurs œuvres, comme pour les réseaux d'enseignement privés, par exemple. On le voit clairement dans la loi Debré de décembre 1959, qui avantage outrageusement l'école catholique au détriment de l'enseignement public et s'applique de surcroît, de manière inégale, notamment pour les écoles musulmanes. Cette discrimination se fait à tous les échelons, notamment dans le contrôle de l'administration qui est largement laxiste pour l'enseignement catholique, affaire Stanislas par exemple, et très pointilleuse pour les écoles musulmanes, lycée Averroès, par exemple. C'est pourquoi la libre pensée ne cesse d'exiger l'abrogation de la loi Debré et de toutes les lois anti-laïques. C'est la liberté de l'enseignement qui est inscrite dans le bloc institutionnel et certainement pas le financement public de l'enseignement privé à hauteur de 12 milliards d'euros par an. Détournés de leur objet, l'instruction publique pour tous les enfants de la République, le financement public de l'enseignement privé, à 90% catholique, relève de simples contrats d'engagement qui peuvent être dissous à tout moment par la puissance publique. Le financement public des cultes et de leurs œuvres est prohibé par la loi du 9 décembre 1905. C'est pourquoi, dans le cadre du collectif unitaire pour la défense de l'école publique initié par la FSU, la Libre Pensée a élaboré un plan de sortie en 6 ans du financement public de l'enseignement privé, plan assorti de plusieurs propositions de loi traitant de différents aspects de cette sortie. Ce plan est déposé et sera l'objet d'une discussion dans ce collectif pour arriver à la conclusion d'un plan commun d'abrogation de la loi Debré et des lois anti-laïques. Et je vous rappelle que cette proposition de la libre pensée, de ce plan donc de sortie en 6 ans, est disponible sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée, fnlp.fr, donc dans un dossier sur l'arrêt du financement public de l'école privée. L'État n'a pas à faire œuvre d'idéologie et ou à imposer une quelconque idéologie. Francis de Pressensé, président de la LDH, disait en 1905 « L'État s'arrête où commence la conscience. Toute idéologie d'État est totalitaire par essence et par nature. Par la loi dite séparatisme, Emmanuel Macron fait un barnum incessant sur les valeurs républicaines à respecter, sous peine de sanctions pénales et financières. Alors que le gouvernement lui-même est incapable de définir avec précision ses valeurs, il organise ainsi une idéologie d'État qui détruit toute liberté de conscience pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'idéologie gouvernementale. Rappelons que liberté, égalité, fraternité ne sont pas des valeurs, mais des principes institutionnels et juridiques qui, s'ils sont bafoués, peuvent conduire au tribunal pour discrimination. Les valeurs ne sont pas soumises à une quelconque justice ou juridiction. Les principes, eux, le sont. C'est le rapport, c'est le même rapport qu'entre l'éthique et la morale. La première est le rapport à soi, c'est le domaine des valeurs. La seconde est le rapport aux autres, car toute morale est sociale, c'est le domaine des principes. La loi dite séparatisme de 2021 veut instituer une idéologie d'État à travers l'imposition obligatoire de valeurs à tous et imposera une sécularisation forcée, imposée et totalitaire à l'islam et surtout à celles et ceux qui se reconnaissent dans cette religion. Et ce, au profit du christianisme. Conférence aux Bernardins, par exemple, où Emmanuel Macron veut, citation, « réparer le lien entre l'Église et l'État ». Présence à la messe de réouverture de Notre-Dame. Et au judaïsme, Hanouka, à l'Élysée, par exemple, où il insiste sur le chemin de l'unité et de la bienveillance entre l'État et le judaïsme. La loi dite « sécurité globale », qui met la police partout et la justice nulle part, est une loi qui réprime les citoyens. La loi dite « séparatisme » est une loi qui opprime les consciences en réprimant toute déviance caractérisée ainsi par l'État, c'est le totalitarisme en marche. C'est pourquoi la libre pensée considère que la défense réelle de la laïcité est incompatible avec un quelconque soutien à ces deux lois liberticides, racistes, xénophobes et policières. La libre pensée considère que ces deux lois s'inscrivent pleinement dans les lois mises en place depuis 1958, comme la loi Debré, mère de toutes les lois anti-laïques. C'est pourquoi elle exige avec force et vigueur, et sans relâche depuis 1959, restant fidèle au serment de Vincennes de 1960 et dont on a parlé dans de précédentes chroniques. Abrogation de la loi Debré et de toutes les lois anti-laïques, abrogation des lois sécurité globale et séparatisme. La Fédération nationale de la libre pensée a décidé de faire un grand meeting unitaire laïque le 6 décembre 2025 pour le 120e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État, en y invitant toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans les principes fondateurs de la loi de 1905, principes évoqués dans cette déclaration. Par principe, elle refusera toute action avec ceux qui ne voient pas dans la laïcité, dans la laïcité que la répression des musulmans et de tous ceux qui ne partagent pas leur conception liberticide. La laïcité, ce n'est pas la xénophobie, le racisme, la répression, les interdits croissants contre tous ceux qui pensent autrement que le gouvernement. La laïcité, c'est la liberté et non l'oppression. Unité des laïcs pour la liberté de conscience, unité des laïcs pour la défense de la loi de 1905, unité des laïcs pour l'abrogation de la loi Debré et de toutes les lois anti-laïques, unité des démocrates pour l'abrogation des lois séparatisme et sécurité globale. La Fédération nationale de la libre pensée appuiera tout pas en avant vers la fin de tout financement public de l'enseignement privé et leur propose de débattre de son plan de sortie, car la seule solution pour défendre l'école publique et laïque est l'abrogation de la loi Debré. Devant l'accueil positif de sa proposition de Confédération laïque pour la défense de la liberté de penser. Elle continuera à œuvrer en ce sens pour la réunion des laïcs, en faisant en temps et en heure des propositions concrètes et constructives. Il faut choisir entre la liberté et l'oppression. La libre pensée a choisi son camp, son objectif et les moyens pour l'atteindre. Et donc le 6 décembre 2025, avec la libre pensée, pour la défense de la loi de 1905, tous au gymnase Japy. Alors j'en arrive précisément à ce communiqué de presse qui annonce cette initiative qui se tiendra dans un an, puisque l'an prochain, en 2025, ce sera le 120e anniversaire de la loi de 1905 et les conditions qui sont en train de se développer permettent de penser que l'unité des laïcs aura encore fait des progrès dans l'année qui est devant nous, et que la proposition d'arrêt du financement public de l'école privée qu'a élaboré la Libre Pensée aura été d'ici là largement discutée par les différentes organisations, associations qui se sont penchées sur cette question, et notamment donc à travers le collectif que je viens d'évoquer. Alors donc, pour ce 120e anniversaire de la loi de 1905, la Libre Pensée s'adresse au mouvement laïque, pour qui la laïcité, c'est la liberté et non des interdictions et la répression. Donc, le mot d'ordre d'initiative, c'est ce meeting laïque national unitaire, samedi 6 décembre 2025 à 14h, au gymnase Japy. Nous avons donc près d'un an pour nous y préparer. 1995, 2005, 2015. À chaque anniversaire de la grande loi de séparation des Églises et de l'État, qui a fondé le respect de la liberté de conscience, et qui garantit la liberté d'association, de réunion, de manifestation, la Fédération nationale de la libre pensée a pris ses responsabilités et a organisé des manifestations et des meetings laïques unitaires pour célébrer ses principes de liberté. Dans cette continuité militante, la Fédération nationale de la libre pensée propose aux laïcs authentiques d'organiser ensemble le 6 décembre 2025 un grand meeting laïque national et unitaire pour célébrer et rappeler les principes de liberté et de démocratie qui ont été élaborés sous l'égide du Congrès mondial de la libre pensée de Rome en 1904 et qui ont triomphé par un vaste mouvement d'opinion dans le vote de la loi du 9 décembre 1905. La laïcité, ce ne sont pas des lois liberticides, sécurité globale et séparatisme. Ces lois réactionnaires sont liberticides, xénophobes, racistes, policières. Elles sont les négations des principes de liberté. C'est pourquoi la Fédération nationale de la libre pensée ne saurait agir aux côtés des xénophobes et racistes pour qui la laïcité n'est qu'une machine à réprimer nos concitoyens d'origine arabo-musulmane ou présupposée telle et tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Force est de constater que les tenants d'une telle conception raciste, policière et répressive sont ultra-minoritaires dans le mouvement laïque et ne représentent rien, même si quelques officines groupusculaires se croient les grenouilles de la fable de Jean de La Fontaine en se prenant pour une outre gonflée de prétentions et entendent violer les principes de liberté de la loi de 1905. En aucun cas La Fédération nationale de la libre pensée ne saurait s'associer à des racistes, xénophobes, liberticides, pétris de haine contre ceux qui n'acceptent pas leur discours de guerre civile. La Fédération nationale de la libre pensée s'adresse donc à toutes les associations, organisations, syndicats, obédiences maçonniques, fidèles à ses principes de liberté, pour qu'ensemble, nous nous réunissions le 6 décembre 2025 pour faire prévaloir le principe de la liberté de conscience. La laïcité, c'est la liberté. La liberté, c'est la laïcité. Défendons-les ensemble. Voilà. Alors, donc, c'était ce communiqué de presse annonçant cette initiative prise par la Fédération nationale pour célébrer le 6 décembre 2025, le 120e anniversaire de la loi de 1905. Et pour cette année, donc, nous sommes au 119e anniversaire, et je voudrais également vous porter à votre connaissance un communiqué de la Ligue des droits de l'homme qui est tout à fait positif. Ce communiqué est intitulé « Défendre la laïcité, célébrer la loi du 9 décembre 1905 ». La LDH, Ligue des droits de l'homme, liée par son histoire à la loi de 1905, tient à rappeler en ce jour anniversaire, dans l'intérêt et l'actualité de cette loi séparant l'État et les cultes. Ce texte, en date du 9 décembre 1905, instaure une séparation entre les institutions publiques et les cultes et par conséquent leur liberté de s'organiser comme ils l'entendent, et la consécration de l'égalité des religions devant la loi, mettant un terme au concordat avec Rome et l'Église catholique. Cela permet aussi l'expression critique des religions. La LDH a toujours combattu, y compris au plan juridique, pour assurer le respect du principe de laïcité qui impose à l'État et aux collectivités publiques la neutralité vis-à-vis de toutes les religions et interdit les signes ou emblèmes religieux au sein des bâtiments abritant le siège d'une collectivité publique. Elle s'inquiète aujourd'hui de ce que certains se réclament indûment de la laïcité pour mener des combats idéologiques et politiques de division, alors même que la loi de 1905 permet de rassembler et de faire société. Outil de préservation de la liberté de conscience, la laïcité semble en effet devenue pour certains le prétexte à affirmer une identité nationale fantasmée aux contours plus que contestables. C'est ainsi que certains maires, tout en se prétendant laïcs, persistent à installer des crèches catholiques dans leur mairie, où elles sont pourtant interdites depuis 1905. C'est ainsi que des responsables politiques de haut niveau prétendent aujourd'hui transformer cette loi en constituant un droit spécifique aux musulmans, souhaitant leur imposer un concordat qui leur a par ailleurs refusé en Alsace-Moselle, ce qui reviendrait à étendre encore davantage un traitement différencié des religions. Le projet est particulièrement dangereux, puisqu'il fait écho aux activités d'individus et de groupes qui s'en prennent à la laïcité au nom d'identités culturelles ou religieuses placées au-dessus du droit commun. C'est ainsi encore que la laïcité est faussement invoquée et à contresens sur des principes posés tant par la loi de 1905 que par la Convention européenne des droits de l'homme pour discriminer les femmes musulmanes interdites d'expression de leur religion dans l'espace public ou dans le sport. Face à cette même logique des uns et des autres, logique délétère en ce qu'elle divise, oppose, nourrit les discriminations, les exclusions et les violences. La LDH rappelle qu'en séparant l'État et les cultes, la loi de 1905 s'inscrit dans un esprit d'universalité et d'égalité des droits. Ce faisant, elle promeut la liberté de conscience et de culte, permet la liberté d'expression des religions, autant que son corollaire, la liberté de critique des religions. C'est pourquoi la LDH appelle à faire vivre la loi de 1905 pour ce qu'elle est, une loi de liberté. Voilà, c'était ce communiqué de la Ligue des droits de l'homme que je trouvais très très intéressant de porter à votre connaissance et d'entrer donc dans les réflexions que nous avons sur ces questions donc de faire vivre la loi de 1905. Alors maintenant, avant de passer à la deuxième partie de cette chronique, il nous restera quelques minutes, je vous propose d'écouter le choix musical de cette chronique. Alors nous poursuivons notre balade dans le blues avec ce que représente socialement l'apparition de cette musique, de ce courant musical. Et nous allons écouter une nouvelle chanson, une deuxième chanson, de John Lee Hooker que nous avons déjà écoutée la semaine dernière. La semaine dernière, donc, nous avions écouté Stump Bougie, et là, aujourd'hui, c'est Hobo Blues, une autre chanson, je dirais, particulièrement révélatrice du style de John Lee Hooker. Nous écoutons John Lee Hooker.
Be my friend, hold on. You know a hobo, hobo, hobo. Hobo a long, long way from home. Mother followed me down to the freight train yard.
Voici donc cette deuxième partie de notre chronique dans laquelle je vous propose une réflexion sur la situation actuelle que nous connaissons, pleine d'incertitudes, et pour laquelle voilà ce que je vous propose. Que faire aujourd'hui ? À tout point de vue, nous sommes dans une situation extraordinaire où tout est possible, le pire comme le meilleur. Jamais sans doute, et sans extrapoler à outrance le dilemme de socialisme ou barbarie, n'a été aussi vrai tant sur le plan national qu'international. La guerre qui a déjà commencé en Europe, la guerre qui va s'amplifier sur tous les plans entre la Chine et les USA, la guerre qui génocide le peuple palestinien et détruit le Liban, la guerre partout, elle est le lot quotidien. L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis ne peut qu'accélérer le processus de la montée à la généralisation de la guerre dans le monde. Dès 2021, la libre-pensée écrivait des mois avant l'ouverture du conflit entre l'Ukraine et la Russie. La guerre qui vient. Et je vous avais lu d'ailleurs à ce micro, dans le cadre de cette chronique, cette déclaration. Les faits nous ont donné raison, malheureusement. Nous ne nous sommes pas convertis à la divination, mais nous avions aussi écrit les premiers que le gouvernement Barnier va mériter son surnom, il ne passera pas l'hiver. Nous y sommes. Tout est possible, le pire comme le meilleur. Nous avons aussi depuis longtemps pronostiqué qu'Emmanuel Macron sera contraint pour durer, c'est sa seule préoccupation, au compte du capital, notamment financier, pour frapper et frapper encore, à recourir à un coup d'État. Seule la date et la forme sont encore inconnues à ce jour. Romaric Godin ne dit pas autre chose quand il écrit dans Mediapart le 2 décembre 2024 « Du point de vue du capital, les choses deviennent fort claires. puisque l'austérité sociale est la seule option acceptable pour lui et que la société n'en veut pas, il faut l'imposer malgré la société. Autrement dit, la seule politique possible devient une politique autoritaire. La crise politique française actuelle traduit ce fait. La démocratie et le parlementarisme deviennent des entraves pour le capitalisme français. Bien sûr, ce phénomène n'est pas nouveau. Il est le produit d'un long processus où, durant les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, l'autoritarisme au service du capital n'a cessé de croître. Mais, en cette fin d'année 2024, plus aucun doute n'est permis. Il y a alors deux issues possibles. Soit une suspension de fait des instances démocratiques, comme cela a été le cas durant la crise de la dette de la zone euro dans plusieurs pays, entre 2010 et 2015. Dans ce cas, l'issue des élections est indifférente. La pression des marchés financiers conduit à un ralliement de fait des forces politiques autour de la politique désirée par le capital. Un gouvernement technique ou un gouvernement d'unité nationale peut assumer une telle option. Mais la gauche peut aussi jouer ce rôle si besoin, comme en Grèce en 2015 ou au Sri Lanka aujourd'hui. La deuxième option est celle de l'extrême droite. Dans ce cas, l'austérité est dissimulée derrière une politique de répression à l'égard des minorités. Dans ce contexte de jeu à somme nulle actuel, une partie du monde du travail peut alors se rallier à l'option voulue par le capital pour le seul avantage de voir une partie de la société être plus maltraitée que lui. Le contexte culturel et politique actuel fait de cette option une possibilité pour la France, à laquelle une partie du capital peut se rallier. Rappelons que, lors de la campagne des législatives au mois de juin, le président du RN, Jordan Bardella, avait préparé le terrain avec son « audit des finances publiques », préalable à toute politique d'austérité sévère qu'il feint de rejeter aujourd'hui. Le contexte français n'est pas isolé. Il confirme que la situation actuelle met fin à l'illusion que capitalisme et démocratie sont indissociables. Bien au contraire, l'enjeu désormais est de prendre conscience de l'impasse où mènent les intérêts du capital pour saisir que la défense de l'état de droit et des libertés passe par une lutte envisageant une transformation économique et sociale profonde. En clair, la rupture sur tous les plans, et nous partageons ce constat et cette perspective. Alors oui, que faire aujourd'hui ? La seule solution pour barrer la route à l'extrême droite et au totalitarisme ne réside pas dans la seule unité du mouvement ouvrier, comme en 1934 en France ou en défaut de manque en 1933 en Allemagne. Si cette dimension est nécessaire et si elle se transporte un peu sur le mouvement syndical, vu la crise de déconfiture de la gauche, elle ne peut régler à elle seule le problème qui nous est posé. La situation étant totalement inédite, une pâle réédition des solutions passées serait inefficace, voire dangereuse. Il faut redonner la parole au peuple par l'élection d'une constituante souveraine qui déterminera quelles institutions il faut pour un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est pourquoi la libre pensée ne cesse de marteler que c'est la seule voie possible positive pour dénouer la crise politique qui ne pourra que s'amplifier. C'est pour débattre de tous ces problèmes que nous avons avancé l'idée d'une rencontre nationale militante, non pour décider de quoi que ce soit, mais pour débattre d'abord entre militants de différentes appartenances. Nous pensons profondément que toute la situation tend vers cela. C'est pourquoi nous publions dans le cahier numéro 9 donc de cette proposition, à vous d'en juger. Carrefour de toujours de rencontres militantes, ouvriers, politiques, syndicaux, associatives, laïques, la libre pensée se devait de proposer cette initiative, car nous sommes convaincus que cela aura lieu nécessairement. Il est donc hautement positif de le proposer aujourd'hui. Nous voyons de plus en plus que les anciennes barrières organisationnelles ne sont plus des obstacles à libre discussion entre militants. Comment ne pas voir aussi que toutes les actions, initiatives, se font dans le prisme de l'unité de l'Union, c'est quasiment devenu incontournable pour entreprendre quoi que ce soit. La division, le sectarisme, le repli sur soi n'est plus une option aujourd'hui pour agir réellement dans la situation actuelle. Il reste encore bien quelques îlots de sectaires qui, pour se convaincre d'avoir raison, doivent prouver à toute force que les autres ont tort. Il y a incontestablement une dimension religieuse très nette. Ils sont le bien et ils doivent donc marteler que les autres sont le mal pour justifier l'absurde de leur existence. Leur avenir est inscrit dans le formol des bocaux où on les mettra pour montrer aux futures générations que de telles monstruosités ont existé, car personne alors ne voudra le croire. Et j'en arrête là pour cette déclaration que vous pourrez prendre connaissance de la totalité sur le site de la Fédération nationale de libre pensée et également du groupe Fred Zeller. Je vous souhaite une excellente semaine et à lundi prochain. La pauvre, elle...